Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis avec Sébastien Lantôme. Bonjour.
Bonjour Baptiste.
Tu es un de ces accompagnateurs en moyenne montagne du DIWA et qui propose des activités un peu tout au long de l'année.
C'est ça, on essaye d'être actif.
C'est très bien parce que, en fait, que font les accompagnateurs de montagne quand il n'y a plus de touristes ?
Ben, ils préparent un peu les moments où il va y en avoir. Ils se préparent à faire des choses et puis ils essaient de proposer des choses un peu alternatives. En ce qui me concerne, il y a une activité que j'ai commencé, que j'ai eu la chance de commencer, c'était à la rentrée septembre, en collaboration avec le club de Die, le club de gym de Die, Dynamic Gym, l'activité marche nordique. Et donc, une fois par semaine, on va se promener avec nos bâtons dans la nature et on s'amuse bien.
Alors, il y a un process particulier pour la marche nordique, c'est-à-dire il y a une méthode, vraiment quelque chose pourquoi ça intéresse un club de gym, par exemple ?
Parce qu'on sort un peu de l'activité marche classique qu'on pourrait qualifier un peu de pépère, mais il ne faut pas être condescendant parce que c'est quand même une activité intéressante. Mais on la rend plus complète, déjà en utilisant les bâtons. La marche nordique est une activité qui utilise les bâtons. On rend l'activité, on utilise les bras, on va travailler un peu plus aussi en rythme. On parle aussi de marche rapide, voilà, c'est un peu des synonymes, marche nordique, marche rapide, marche avec des bâtons, toutes ces activités-là, enfin tous ces termes-là pour parler d'une même activité, c'est aussi pour dire que ça cherche à être un peu plus sportif que la marche, et donc de permettre un peu plus
Tu parlais de marche par rapport à de la randonnée, même de la randonnée en moyenne montagne, ce serait plus physique ?
C'est plus physique et c'est un format un peu plus court. Une séance de marche nordique, pour résumer un peu, ça dure 1h30. Donc on peut aller un peu plus dans le cardio, c'est-à-dire faire augmenter un peu plus les fréquences cardiaques. Et du coup, on se dépense plus, mais on va travailler sur un format plus court.
Pourquoi les bâtons ?
Alors historiquement, les bâtons, ils sont venus... C'est les Finlandais qui ont commencé à marcher avec des bâtons.
C'est pour ça qu'on dit nordique. En fait, on n'est pas obligé de marcher dans la neige.
Non, et puis on n'est pas obligé d'aller dans le nord. On peut marcher en direction du sud pour faire de la marche nordique. Les Finlandais, donc la fédération de ski de fond, a cherché à trouver une façon de maintenir un peu l'entraînement, le travail des bras, le travail des bâtons, en dehors de la période d'hiver. Et donc, ils ont commencé à marcher, même sur terrain sec, avec des bâtons, tout en maintenant effectivement le mouvement, le travail des épaules, le travail des bras. Et donc, au départ, d'une activité un peu centrée sur la compétition, la Finlande a essayé de développer ça, de démocratiser ça. Donc, dans les années 90, c'est devenu une activité beaucoup plus populaire. Les Finlandais se sont appropriés ça et c'est devenu une activité un peu à part entière. La marche nordique est apparue donc en tant qu'activité propre à ce moment-là. Et aujourd'hui, en Finlande, qui est un peu le berceau de la marche nordique, il y a plus d'un million de pratiquants pour 500 000 licenciés. Donc, c'est vraiment une activité.
Tu sais comment ça s'est passé ? Il y a une fédération qui s'est montée autour de ça ? Ou il y a peut-être un ministère de la Santé qui s'est dit, tiens, il faut le faire ? Non ?
D'après ce que j'ai pu lire, effectivement, ça a été une initiative un peu du gouvernement finlandais de développer ça pour permettre... toujours une amélioration de la santé, hein, de promouvoir une activité. Donc, c'est parti effectivement de la fédération, plutôt la fédération de ski, je parle du ministère, mais c'est plutôt associatif. C'est parti donc de la fédération de ski qui a voulu ouvrir cette activité qui connaissait un vrai essor de la part des pratiquants de ski de fond à des pratiquants plus généralement. Et donc, ça a amené tellement de bien-être et d'éléments positifs que voilà, c'est devenu vraiment une activité à part entière.
Alors, pour revenir sur ces bâtons, il y a un mouvement, là, maintenant qu'on a associé ça au ski de fond. Effectivement, les bâtons vont servir aussi à propulser et à empêcher que le haut du corps se fige, hein, quand on est dans une course à pied, par exemple. tous les marathoniens le disent, qu'au bout d'un moment, on a mal au bras, mal au dos du dos.
Tout à fait, oui, c'est pour délier, on parle de ces termes-là, se relâcher, se délier. Alors techniquement, je pense qu'il ne faut pas être trop élitiste quand on parle de ce mouvement de marche nordique en donnant l'impression qu'il y a un apprentissage qui prend 10 ans pour arriver à l'acquérir. C'est quelque chose d'assez simple et qu'on acquiert heureusement assez facilement. En une ou deux séances, on trouve les repères. C'est juste utiliser les mouvements naturels du corps. Quand on marche, on a instinctivement les bras qui balancent pour se servir de contrepoids. Et ben là, on rajoute le bâton et on s'appuie sur le bâton. Effectivement, après, il y a des mouvements qui viennent amener une propulsion. On parle de jeter le bâton vers l'arrière pour vraiment se pousser vers l'avant. Il y a des termes qui permettent de comprendre un peu comment on peut s'approprier cette technique, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est une technique qui ne demande pas des années et des années de pratique. En une séance ou deux séances, on comprend comment on utilise des bâtons pour marcher.
Et c'est des plus grands bâtons, comme au ski de fond, alors ? Ou on prend plutôt
non,
sa taille ?
C'est plutôt, c'est des bâtons qui correspondent à la taille des bâtons qu'on prend pour faire du ski, en gros. Mmh. Voilà, pour donner un repère, il faut avoir le coude angle droit, les épaules relâchées et qu'on ait le haut du bâton dans la main.
Comment t'es venu cette idée de proposer ça ici alors ?
Bah alors ça s'est fait par opportunité, on pourrait dire. En fait, la personne qui s'en occupait précédemment depuis pas mal d'années voulait lâcher l'activité parce qu'il commençait à plus arriver à suivre d'après ses tirs totalement le rythme du groupe. Voilà, mais c'est une personne qui je pense était un peu humble et était parfaitement capable de la suivre. Mais voilà, arrivé à un certain âge et il commençait à dire qu'il avait envie de faire un peu autre chose, bien qu'il continue, on est toujours en collaboration et on alterne un peu, parce qu'il y a des fois où moi je ne suis pas dispo, c'est lui qui les encadre. Comme je n'ai pas demandé son avis avant, je ne vais pas citer son nom, mais voilà, un jour il a envoyé sur le réseau des accompagnateurs du Diwa une proposition disant qu'il cherchait quelqu'un pour prendre le relais, je l'ai contacté et voilà, le passage de relais s'est fait comme ça, par l'intermédiaire du club de marche nordique de Die.
Et tu connaissais ? Cette pratique ?
Moi, je la connaissais effectivement personnellement. Voilà, je ne m'étais jamais posé la question. Enfin, je m'étais posé la question quand même de proposer des encadrements plus ponctuellement, en particulier pendant la période estivale, de proposer des petites initiations dans les campings. J'étais un peu dans cette réflexion quand j'ai vu cette proposition arriver. Donc ça faisait un peu écho à des choses que j'avais envie de mettre en place. Après, moi, je marche avec des bâtons depuis des années. J'ai vraiment l'intuition que c'est quelque chose qui amène beaucoup de choses intéressantes dans la marche.
En temps normal, t'es tout le temps avec des bâtons.
Moi, je marche toujours avec des bâtons. Et depuis que j'encadre en tant qu'accompagnateur, j'incite, j'oblige pas, mais ça fait vraiment des choses. Dans les briefings que je fais de présentation, qu'on parte en trek ou qu'on parte à la journée, dans les discussions que je fais, j'incite vraiment à l'utilisation des bâtons. C'est vraiment un élément de sécurité et j'ai très rarement vu de problèmes de cheville, de problèmes de genoux, de problèmes de dos avec des gens qui marchaient avec des bâtons. Alors que je ne vais pas dire que ça arrive systématiquement, mais toutes les saisons, j'ai au moins une personne qui se fait une cheville et une personne qui à un moment donné, va se faire mal au genou. Et c'est rarement des gens qui ont des bâtons.
Au-delà de la stabilité, les passages un peu gazeux, un petit peu rocailleux, tout ça, c'est pas non plus handicapant, à l'inverse.
Alors ça dépend du contexte, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Il y a des fois les bâtons, on les met dans le sac. Il y a des passages un peu difficiles où il faut mettre les mains, les bâtons, ça devient encombrant. Alors les bâtons qu'on utilise en randonnée, ils sont télescopiques, c'est-à-dire qu'on peut en faire varier la longueur, donc on va les baisser et on va les mettre dans le sac, on va les accrocher au sac. Les bâtons de marche nordique, typés marche nordique, sont rigides, donc on ne peut pas en faire varier la longueur. Enfin, ceux qui sont vraiment techniques n'ont pas la possibilité de faire varier la longueur. Et donc, on va les accrocher au sac, les sacs de marche nordique ou les sacs de rando, on prévoit maintenant cette possibilité. Mais c'est vrai que la marche nordique n'est pas pour objectif d'aller faire des passages gazeux, de faire des gros dénivelés. C'est une marche qui, au départ, se fait en plaine. Alors ici, on la fait aussi quand même un peu sur des dénivelés. On profite un peu des reliefs qu'on a ici. Et puis, on se profite aussi des paysages. Et donc, on adapte. Mais du coup, les bâtons nous aident à monter, nous facilitent un peu la progression. Et aussi, très intéressant, dans la descente, nous permettent d'encaisser plus facilement les chocs. Et donc, ça rend la descente beaucoup moins traumatisante.
Ouais, et puis, tu parlais du genou. C'est quand même vraiment le truc qui prend le plus dans la descente.
Bien sûr.
Ouais.
Genou et cheville.
Alors, cette marche nordique plutôt en plaine, bon, ici, et tu le disais, c'est pas vraiment la plaine. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des promenades, là, voilà, en 1h30 que tu proposes?
Une séance type, elle commence par. Bon, c'est très convivial, on commence par se dire bonjour et ça parle beaucoup
sympa.
Dans ces séances, bien sûr. Non, mais c'est important, je pense, d'approcher aussi cet élément
convivialité, on est pas là pour,
travail en groupe.
Ouais.
C'est une activité qui permet de rencontrer les autres. Et voilà, ce temps de début de séance, il permet effectivement d'avoir un petit temps de discussion. On s'échauffe, voilà, on essaye de bien mettre en place le corps pour l'activité. Un quart d'heure en moyenne ce temps-là. Après, on part pour 1 heure d'activité. On essaye d'être progressif. On va marcher au début à un rythme moyen. Puis petit à petit, on va monter en puissance. En fonction après aussi des moments, on va avoir plus ou moins de dénivelé. Voilà, on essaye de faire varier un peu les séances et les itinéraires pour varier un peu les plaisirs. Et l'aspect paysager est important. Et puis après, on se garde un dernier quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour faire des étirements, de la relaxation pour redescendre un peu le rythme. Donc c'est une activité qui est assez complète et qui permet de, en 1h30, d'avoir quand même quelque chose qui permet d'être bien, d'avoir fait quelque chose d'assez complet.
Et donc elle est forcée un petit peu la marche, c'est-à-dire que c'est par exemple en termes de vitesse de marche moyenne et le high top de la course marche nordique.
Pour donner des repères à un marcheur moyen en randonnée, il y a trois, enfin moyen vraiment, je parle pas de ceux qui marchent toutes les semaines, mais on est autour de 3,5 km/h. Là, on est autour de 5 km/h. Et il y a des pointes à 7 km/h sur le plat. Donc c'est vraiment de la marche rapide où on est à la limite de courir.
Alors c'est quoi le profil de ce club de gymnastique? Tu as quel type de public?
Bah actuellement, principalement des dames. Ces dames sont très sympathiques, mais apprécieraient quand même que certains hommes s'intéressent à l'activité pour la rendre un peu plus mixte. Principalement, peut-être un peu plus âgés, on va dire, moyenne d'âge se situant autour de 50-55 ans. Bon, l'activité se passant en semaine, c'est vrai qu'il y a malheureusement un pré-tri qui se fait par rapport à la possibilité de se libérer par rapport au travail. Mais je pense que c'est important de sortir un peu les représentations que c'est une activité peut-être pour personnes un peu âgées.
Moi je pensais pas ça en fait en posant la question. Je m'attendais pas à cette réponse.
Ah, c'est un peu ce que j'avais l'impression de voir dans tes yeux.
Oui, enfin en même temps c'est vrai qu'un club de gymnastique, souvent les clubs de gymnastique ont cette connotation d'être plutôt des clubs pour personnes âgées, oui. Mais dans cette partie-là, vu le côté sportif, etc., s'ils s'envoient à 7 km/h, ils sont quand même un peu entraînés, ces personnes âgées. Elles
bien
repêchent.
Sûr, ouais, elles vont très bien, ouais. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un bon rythme et puis une bonne ambiance. Moi,
puis sommes-nous âgés à 55 ans?
Non. Mais sûrement pas.
Non.
Voilà. Heureusement que non. Et heureusement qu'il y a des activités comme la marche nordique pour se maintenir en bonne forme.
Alors, c'est quand ces sessions, tu disais, en semaine?
On a une séance hebdomadaire en ce moment en hiver qui est le vendredi de 10h à 11h30 qui se maintient toute la saison sauf vraiment conditions météorologiques non compatibles. Et puis on a une séance en heure d'été donc qui s'est arrêtée fin octobre et qui reprendra début avril qui est le mardi de 18h à 19h30.
Donc il faut passer par le club de gymnastique de Die. Pour s'inscrire.
Voilà, je te laisserai le mail si tu veux. Je l'ai dit, il est quand même un peu compliqué, mais c'est dynamiquegym.di@gmail.com.
Voilà, il sera noté évidemment sur la page.
Voilà.
Et donc,
c'est mon numéro de téléphone aussi.
C'est ouvert tout le temps, en fait, là, puisqu'on en parle maintenant, on peut s'inscrire n'importe quand.
Alors, il y a le club Dynamic Gym propose 2 séances d'initiation, donc n'importe qui peut venir rencontrer l'activité pendant 2 séances. Et puis bien entendu, après, si l'activité intéresse, comme toute activité, il s'agit de prendre une licence, d'avoir une protection justement à travers cette licence, une assurance, un petit certificat médical pour de non-contre-indication à la pratique. Et puis après, voilà, il y a 2 forfaits, il y a le forfait à la séance, voilà, c'est une séance et facturée 5 € la séance, ou le forfait à l'année, où voilà, on participe autant de séances qu'on veut, les vendredis.
Donc c'est à la carte, ouais.
C'est un peu à la carte, ouais.
Et donc cette licence permet d'être affilié à la Fédération française de la marche nordique, ça existe?
Alors Dynamic Gym n'est pas affilié à la Fédération française, mais effectivement cette fédération existe, ouais. de marche nordique, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire après la marche nordique? Est-ce que c'est un sport, par exemple, qui se de compétition? Est-ce qu'on peut aller plus loin?
On voit ça apparaître, ouais. Moi, je ne suis pas trop formaté dans ce domaine-là, mais j'ai une collègue là, qui encadre un peu des séances à un peu de niveau supérieur à ce que j'encadre moi, et qui amène le groupe une à deux fois par an. Donc, il y a eu une manifestation à Lyon fin octobre, et il y en a une durant l'été sur le Vercors, où il y a à la fois une rencontre et à la fois un esprit de participation, d'échange, donc les gens peuvent participer sans chronomètre, mais il y a... Il y a une course pour ceux qui ont envie de se faire un peu plus mal, quoi. Enfin, qui ont envie de se tester sur un chrono.
Bon, je reviens sur une question tout à l'heure que tu n'avais pas vraiment répondu. Alors, qu'est-ce que tu nous montres au niveau paysage dans le cadre de ces sessions?
Ben, moi, c'est vrai que c'est le petit plus que j'ai voulu proposer au club dans mon approche. C'est-à-dire que pratiquer dans la nature sans parler de la nature, ça me paraissait dommage d'utiliser le milieu sans le rencontrer. Donc chaque fois je propose une petite histoire, une petite rencontre avec une plante et puis une petite lecture de paysage. Donc récemment on est allé à Valcroissant, on a pu parler un peu de la forêt autour de Valcroissant, on a pu aller dans la forêt autour de Die, et voilà, à chaque fois il y a une petite anecdote. On essaie de lever les yeux un peu sur ce qui nous entoure aussi.
Oui, ça, tu peux prendre ce temps, puisqu'on imagine un rythme quand même soutenu. Vous allez pouvoir faire des pauses. Pour parler, même dans le groupe, c'est moins facile que la rando classique, non, je pense.
Bien sûr, on reste quand même dans un esprit de convivialité. Il y a, on va dire, une à deux pauses sur l'heure de marche à proprement parler, où on se désaltère quand même, faut boire, hein.
Ouais.
Et puis on en profite pour discuter, et puis sur les moments où on n'est pas encore à un rythme trop élevé, ça parle pendant la marche, hein, bien sûr.
Bon, parlons équipement, alors il faut des bâtons, bien sûr,
ouais.
Donc au cela on se prend les bâtons télescopiques ou des spéciaux, des bâtons spéciaux c'est combien
voilà, l'entrée de gamme c'est dans les 50 €, ouais, pour ouais. Une idée de prix. Alors après, c'est un débat qui, à mon avis, ne doit pas être limitatif. Moi, j'ai fait récemment une initiation à la marche nordique avec un groupe de postiers à Luc-en-Diois. J'avais pas suffisamment de bâtons typés marche nordique pour proposer vraiment l'équipement nécessaire. On a fait l'initiation avec des bâtons de marche classiques, des bâtons télescopiques. Je pense que pour rencontrer l'activité, pour débuter l'activité, il ne faut pas dire à un pratiquant qui a déjà des bâtons de randonnée qu'il va devoir encore acheter de nouveaux bâtons. On peut effectivement découvrir l'activité avec des bâtons de marche de randonnée classique. Après, il y avait effectivement, techniquement, dans un bâton de marche nordique, des éléments qui sont importants. La rigidité, hein, c'est un élément important parce que quand même, on pousse sur le bâton. Il faut quand même que l'effort qu'on donne dans le bâton soit restitué dans la marche et non pas dans le fait que le bâton se plie. Et puis l'aspect position de la main. Donc, dans le bâton de marche nordique, on a ce qu'on appelle un gantelet qui permet d'avoir la main mieux orienté, plus à plat, et donc de vraiment pouvoir relâcher la main. On n'est pas obligé de tenir le bâton, on appuie sur la dragonne du bâton, et d'avoir une position un peu plus physionomique par rapport au bras. Donc voilà, il y a un plus pour les bâtons typés marche nordique qui est intéressant, et plus cette dragonne peut se déclipser. Donc quand on a besoin à un moment donné, en descente particulier, on essaye de ne pas garder ses dragonnes, parce que si le bâton reste accroché, on peut se faire mal à l'épaule. Donc on peut déclipper quand il y a besoin, ou quand on a besoin de prendre des choses dans son sac. Et donc voilà, ces aspects-là plaident en faveur d'un bâton typé marche nordique particulier.
Mais non, mais c'est comme pour le tennis, à un moment donné, il faut s'acheter une bonne raquette, quoi.
Voilà, c'est ça. On peut découvrir le tennis avec une raquette en bois, mais si on commence à se faire plaisir et qu'on veut, on va acheter des bâtons un peu plus spéciaux, quoi.
Et après, en dehors de ça, alors du coup, on est plutôt dans une tenue sportive, à l'opposé de la randonnée, des chaussures aussi qui ne sont pas forcément des chaussures de rando. C'est important d'être léger, peut-être, non?
Ouais, c'est plus des chaussures, on pourrait dire, qui rappellent la chaussure de trail. Ouais, voilà, si on doit les taper dans un rayon, c'est plutôt dans le rayon trail. Des chaussures souples, agréables, plutôt légères, et puis avec une semelle qui absorbe. Voilà, on est quand même sur des terrains variés. Donc la semelle type basket pour faire du running sur le goudron n'est pas adaptée.
Oui, mais la grosse chaussure de rando non plus.
Non plus, voilà. Tout à fait.
Ouais.
Effectivement, la grosse chaussure en cuir de papy... c'est bien pour aller marcher, mais pour faire de la marche nordique, c'est pas très approprié.
Et après, en tenue?
Une tenue pour être à l'aise pour faire du sport, hein, voilà, un fuseau ou un legging pour avoir chaud, mais quand même pouvoir facilement faire des mouvements. Et puis sur le haut, ben, suivant la période, c'est vrai qu'en ce moment c'est toujours compliqué de marcher en hiver parce que dès qu'on commence à partir, on a froid quand on part, ça fait 5 minutes qu'on marche, on commence à avoir chaud. Donc il faut des vêtements respirants, voilà les mêmes consignes qu'on peut donner pour quand on fait du ski de fond, quand on fait n'importe quel sport dans le froid. Une couche d'un vêtement technique contre la peau respirant, donc pas de coton. Une couche intermédiaire et puis un coupe-vent si nécessaire. Voilà, c'est un peu la règle d'or du sport dans le froid.
Tu m'as mis devant les yeux les bienfaits de la marche nordique. C'est vous qui l'éditez pour le...
Ça, je l'ai pris sur le site. Il y a un site qui s'appelle marche nordique, .net, je crois. Je pense que c'est important, effectivement, de voir... voilà, on fait pas forcément... c'est pas une finalité de faire de la thérapie en faisant de la marche nordique, mais c'est vrai que c'est une activité qui apporte quand même... beaucoup de choses dans un monde où on s'est sédentarisé et on passe pas mal nos journées assis et malheureusement
devant un écran.
Beaucoup devant un écran et je plaide coupable moi aussi, même si dans mon activité j'ai quand même la chance d'être souvent dehors.
Est-ce que t'emmènes ta tablette dehors?
Ben, je prends mon téléphone pour le GPS et aussi pour voir mes parcours parce qu'effectivement je prépare mes parcours à l'avance et donc j'ai la trace de mon parcours sur mon GPS. Mais je ne le sors que ponctuellement, je passe pas la séance le nez sur le téléphone, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments intéressants dans la pratique de la marche nordique et dans la pratique de la marche en général. Ça renforce le squelette, ça permet de prévenir un peu les problèmes des calcifications.
Oui, alors c'est le plus intéressant d'ailleurs parce que, bon, effectivement, respirer, c'est tonifiant, ça permet éventuellement de se détendre. Là, on rejoint la pratique, l'amincissement même, enfin, voilà, du sport d'une manière générale. Fortifie les os. Et alors là, c'est parce que le bâton vient taper, c'est la vibration qui va...
Non,
c'est fou cette histoire de calcification.
Les os sont renforcés en fonction aussi des muscles qui sont insérés dessus et comment on les utilise. C'est-à-dire que n'importe quel sédentaire qui reste assis perd de la masse osseuse. Et plus on marche, même le simple fait de marcher renforce la masse osseuse des jambes. Et puis à partir du moment où on utilise les bras, ça renforce la masse osseuse des bras aussi. C'est le fait de faire circuler le sang, c'est le fait d'amener effectivement des éléments importants dans les os par la pratique.
Et puis les contre-indications, il y en a quand même. Les tendinites, les rhumatismes. Il faudrait pas utiliser par exemple de bâton quand on a des rhumatismes, ça n'empêche pas d'en faire.
Non, mais je pense que tous ces problèmes sont malheureusement renforcés si on fait rien. Donc il y a quand même un moment donné où il faut essayer de faire quelque chose qui soit adapté à la pathologie. Donc arthrite, je pense qu'effectivement, si je me souviens bien, il ne faut pas pratiquer en même temps qu'une grosse poussée d'arthrite. Mais le fait de pratiquer va plutôt, encore une fois, améliorer la circulation du sang dans ces parties-là et donc peut améliorer le confort. Ce n'est pas un élément qui va guérir de l'arthrite. Hein, malheureusement, c'est quand même quelque chose qui est assez irréversible, mais ça peut améliorer le confort.
Marche nordique donc avec Sébastien Lantôme dans le cadre du club de gymnastique qui donc, que tu disais tout à l'heure, il a un nom en fait, c'est
Dynamic Gym.
Ouais, Dynamic Gym, on devrait le dire plus souvent parce que comme ça, ce sera plus facile de les retrouver.
Ouais, il propose aussi des activités de gym classiques.
On peut faire du ballon là, je sais plus comment ça s'appelle là.
De la gym sportive, ouais, je sais plus, il y a plusieurs activités.
Bon, eh ben on va pas parler en leur nom. Renseignez-vous, auditrices, auditeurs. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, mais effectivement, je pense que l'élément important qui est resté un peu sous-tendu dans notre discussion, c'est le plaisir, le bien-être qu'on peut avoir à pratiquer la marche nordique et la convivialité. Ouais, je pense que c'est des éléments importants. Et puis l'aspect amélioration de la santé.
Merci Sébastien.
Merci Baptiste.
À la prochaine.
À très bientôt.
Hey, the bird. L'interview du jour.